There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News en direct. Bien sûr, un programme chargé aujourd'hui dans la déclaration de Vladimir Poutine qui a été amplement commentée depuis ce matin. Une phrase véritablement est à relever parmi d'autres, une phrase lourde de sens pour appréhender sa vision du monde lorsque Poutine dénonce la guerre menée par l'Occident contre la Russie. C'est le nouveau choc des civilisations version russe, on va en parler. Tout autre chose, rien ne va plus, mais vraiment rien ne va plus à la NUPES. Après l'affaire Quatennens, le cas Bayou, et à qui le tour après? Et surtout, qui pour juger, qui pour obliger à démissionner? La justice des partis politiques va-t-elle supplanter la justice de la République? C'est le thème du débat du jour. Papandiaï, devant des étudiants américains à Washington, affirme que la France a du mal à affronter les questions ethno-raciales. Le ministre de l'Éducation qui affirme qu'officiellement, notre pays est indifférent à la couleur de peau. Et puis nous évoquerons aussi les suites du refus d'obtempérer à Anzin. Nous parlerons de la proposition de Gérald Darmanin concernant le droit d'asile. Bref, un programme chargé, mais c'est l'heure. Bonjour Nelly, l'heure du journal.
Bonjour Sonia, bonjour à tous et à la une de l'actualité. Cette phrase lâchée par Vladimir Poutine, qui pense que l'Occident essaie de détruire, je le cite, la Russie. C'était à l'occasion d'une allocution télévisée ce matin après l'annonce de référendum en Ukraine. Vladimir Poutine qui par ailleurs annonce une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. On va l'écouter.
Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation. J'ai signé le décret. La mise en place débute aujourd'hui. Si jamais les intérêts de la Russie sont menacés, nous utiliserons toutes les armes à notre disposition.
Réaction quasi immédiate du ministre britannique de la Défense avec ces mots. L'irrespect, dit-il par Poutine, de ses propres promesses de ne pas mobiliser une partie de sa population et l'annexion illégale de certaines parties de l'Ukraine sont donc des aveux d'échec. Dans le reste de l'actualité, sachez qu'Elisabeth Borne s'entretient aujourd'hui à Matignon avec les présidents de groupes parlementaires pour tenter de déminer une session parlementaire qui s'annonce musclée. Bonjour Éric de Rinmaten, vous êtes aux premières loges à Matignon. Rendez-vous très attendu. On se demande s'il peut en sortir quelque chose de positif. Alors, on a un petit problème de son, vous l'aurez compris. On tentera de remédier à cela dans les prochaines minutes et on va dérouler le reste de l'actualité avec cette agression d'un fleuriste de 26 ans. C'était jeudi dernier, agressé à coups de couteau par deux jeunes âgés de 18 et 19 ans. Il était alors sur le parking du McDrive de Vélizy. L'auteur des coups de couteau a été condamné à 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et à 1 an de sursis. Le père de la victime, d'ailleurs, est revenu sur l'émotion au moment de cette agression. Écoutez.
Vide, vu l'état de mon fils, on le voit allongé en baignant dans le sang. Donc je ne sais plus trop mes réactions ni quoi que ce soit. C'est douloureux parce qu'on y repense, je revois les blessures, j'ai du mal à dormir, mon fils aussi.
Enfin, on en est au troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise. Je vous rappelle qu'il avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde. Il a affirmé ce dernier avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. Et aujourd'hui, c'est donc cette jeune fille, la fille donc de l'accusé, qui est amenée à témoigner. Noémie Schulz, vous êtes sur place, tribunal judiciaire de Beauvais. C'est peut-être la clé, d'ailleurs, dans ce procès, le témoignage de cette jeune fille, quoique sans doute très complexe.
Oui, c'est une jeune fille brisée, rongée par la culpabilité qui pendant plus d'une heure sanglote à la barre. Nesrine a 27 ans. Le 14 juillet 2014, j'ai tout perdu. Mon copain, ma famille, mon père. J'ai quitté la maison. Tout est nouveau pour moi. C'est une deuxième vie. La jeune femme fait péniblement le récit de cette soirée. Julien Videlaine venu chez elle parce que son père devait rentrer tard. Les bruits dans la maison, son père qui lui demande de descendre. De la suite, Nesrine dit ne pas se souvenir précisément. Elle n'a que des flashs. Ses deux tendons sectionnés à la main. Je me suis blessée menacé en essayant de prendre le couteau. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Il n'avait jamais été violent. On le comprend, la position de cette jeune femme est intenable. Son premier amour a été tué par son père. Elle n'a plus aucun lien avec sa famille. Et tout cela, répète-t-elle à la cour, c'est de ma faute. Quelle faute avez-vous commise ? Interroge doucement la présidente. Je n'ai pas fait les choses dans les règles. J'ai menti à mes parents. C'est vous qui avez poignardé Julien ? Non, mais c'est à cause de moi ce qui s'est passé. Moi, j'aurais préféré mourir à la place de Julien ou être en prison à la place de mon père. L'avocat de la défense, maître Berton, s'adresse à elle. Il y a des choses que vous devez savoir et j'espère que votre père vous le dira. Il n'y a rien de votre faute là-dedans. Rien.
Merci beaucoup, Noémie, pour toutes ces précisions. Voilà. On va refermer ce journal sur cette information et c'est à vous pour le début du débat, Sonia.
Effectivement, le débat avec nos invités ce midi. Kevin Bossuet est avec nous, professeur d'histoire-géographie. Merci d'être là et bonjour à vous. À vos côtés, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonjour à vous. En fait, c'est l'équipe du mercredi, tout simplement.
Mercrediste.
Mercrediste. Olivier D'Artigol,
bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Bien. Maître également, vous allez bien ?
Merci, bien Sonia, bonjour.
On a beaucoup à dire sur la justice. C'est un programme chargé. On ira évidemment sur l'information de la matinée, enfin l'information. Dans les propos de Poutine, il y a une phrase véritablement, sans doute vous l'avez relevé, sur, oserais-je dire, le nouveau choc des civilisations. En tous les cas, il le présente et l'appréhende ainsi entre l'Occident et la Russie. Nous allons en parler, mais tout d'abord, il y a des chocs très différents, minimes. Pardonnez-moi de faire une transition comme celle-ci, mais après l'affaire Quatennens, après le cas Bayou à qui le tour, c'est un petit peu la question que se posent en tous les cas certains dans la NUPES. Il n'y a pas eu de main courante, je voudrais le préciser, dans le cas Julien Bayou. Il n'y a pas eu de plainte, il n'y a eu aucune enquête, mais vous l'avez tous vu, Sandrine Rousseau a parlé. Maître, est-ce
le
que
procureur
tout le monde...
Sandrine Rousseau.
Amen. Est-ce que tout le monde se substitue à la justice ?
À l'évidence, oui, vous avez raison. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de faire œuvre de justice sans qu'on sache bien quels sont leurs critères, s'ils sont moraux, éthiques, déontologiques, juridiques.
Politiques.
Et peut-être, pour certains, avec une arrière-pensée politique. Donc, ce qu'on n'a jamais vu, évidemment, dans les affaires judiciaires. Eh bien, si vous voulez...
Ça fait du bien de rire en début d'émission.
Oui. Et ça pose l'immense question de la valeur de ces enquêtes internes, de ce dont se dotent les partis politiques, les entreprises aussi d'ailleurs. Hein, c'est un champ maintenant d'intervention pour mes confrères et moi important, les enquêtes internes.
Mais alors vous posez la... Allez-y, Elisabeth.
Non, mais moi, il y a une autre chose qui me gêne en fait. C'est qu'il n'y a pas seulement Sandrine Rousseau, c'est que tous les Français sont pris à témoin d'affaires qu'ils ne connaissent pas, parce que je le répète, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça, Sonia, je vous ai entendu, mais on ne peut, si vous voulez, le même mot, c'est-à-dire une gifle en l'occurrence, peut désigner un geste malheureux qui ne s'est pas répété, oui je sais, il grommelle, un geste malheureux qui ne s'est pas répété, qui est certes pas bien, mais qui ne fait pas de l'homme, si vous voulez, un criminel absolu et qui, à mon avis, ne mérite pas forcément que sa carrière soit interrompue, et quelqu'un qui cogne sa femme tous les jours. Si vous voulez, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui se passe dans un couple.
Mais lui-même
on
l'a sait reconnu, pas ce qui se passe.
On ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe après. Et encore une fois, si vous voulez, les affaires humaines sont plus troubles, plus tourmentées, plus complexes. Donc, chacun est amené à juger à partir d'un mot, de quelques mots. Je lui ai pris son téléphone. Et... si vous voulez, avec une vision, on dirait que personne ne lit jamais de romans, parce que les romans disent la vérité. Mmh. Et avec une vision de l'amour ou des relations amoureuses qui me paraît être d'une naïveté totale, il suffit, lisez un roman de Philip Roth, je ne retrouve pas ce nom, où, qui est une histoire où il est complètement dominé par une jeune femme, enfin bon, c'est terrible, et...
Elisabeth, donc, on lit, ça nous arrive de lire, mais on regarde aussi la réalité des faits.
Mais la réalité, vous ne la connaissez pas, c'est pas parce qu'il y a un mot que vous connaissez la réalité
non,
des
mais,
faits.
Et si vous sondez la nature humaine,
défendre.
Elisabeth Lévy, la nature humaine, un homme est un homme violent. Il le répétera.
Eh bien, je ne crois pas. Ah bon, voilà, je ne crois pas.
Vivez
et
la vie.
Et excusez-moi, d'abord, il y a aussi des. Excusez-moi, justement. Chacun se permet à partir d'un mot sur lequel on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, ni rien, si vous voulez. Et encore une fois, si vous voulez, un geste malheureux, répréhensible, tout à fait déplorable peut arriver. Ça ne fait pas forcément de vous un salaud. Et je trouve que là, les Français sont pris à témoin. Moi, j'ai été très gênée par le communiqué d'Adrien Quatennens.
On va y revenir.
Bon. Je trouve qu'on est tous...
Est-ce que vous faites beaucoup réagir ? Je voudrais écouter les... Voilà. Par du plateau aussi, Kevin Bossuet.
Moi, je pensais qu'on avait un petit peu évolué, que les violences contre les femmes étaient aujourd'hui bannies dans notre société. Je n'admets pas que l'on puisse les défendre. Gifler une femme est un geste qui est évidemment inacceptable. Pendant le premier confinement, 10% des femmes ont subi une violence. Quand on prend des sondages qui ont été réalisés sur le lieu de travail, il y a 10% des femmes qui disent avoir subi une agression sexuelle sur leur lieu de travail. C'est quelque chose, en effet, qui est énorme. Surtout que là, on a affaire à des gens qui ont fait de la lutte contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes, un ADN politique au final. Et on se rend compte que tous ces gens-là ne respectent pas la morale qu'ils veulent nous imposer. Moi, je suis désolé, le fait de lever la main pour gifler une femme, c'est inacceptable. Quelqu'un qui est capable de le faire une fois est capable de le reproduire. Et quand cet individu est député de la nation, il y a derrière une notion d'exemplarité. Donc il doit démissionner. Je suis désolé, surtout qu'il a avoué, ce ne sont pas des simples soupçons, puisqu'il a dit clairement qu'il avait fait ce geste. Donc moi, je trouve qu'on arrive à un moment où on ne peut plus accepter ce genre de choses.
Je n'ai absolument pas défendu cela, j'essaye juste de le contextualiser, j'essaye de rappeler que les affaires humaines sont complexes et rien ne vous permet de prononcer cette phrase, quelqu'un qui gifle une femme une fois est capable de le faire plusieurs fois, rien ne vous permet d'affirmer cela.
Je suis d'accord avec Elisabeth pour dire que les affaires humaines sont complexes, l'âme humaine est complexe, mais il y a des faits de société. En l'occurrence, les violences faites aux femmes, qui se passe pour beaucoup dans la sphère privée, familiale, conjugale. Il y a eu en effet des romans et des films montrant la domination masculine et les phénomènes d'emprise en la matière.
Mathilde Lamolle, excusez-moi.
Je t'ai pas interrompu, Elisabeth. Et la seule chose positive de cette séquence, c'est que ça éclaire ce sujet.
Mais en quoi ?
Ça l'éclaire tout simplement parce que c'est un fait qui
Attendez.
Et après, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du début à la fin.
Mais en quoi ça éclaire ? Moi, j'aimerais comprendre en quoi ça éclaire. Il y a deux choses. Il y a la violence qu'on condamne tous. Mais il y a ensuite les demandes de démission. Il faut qu'on y revienne. Les justices.
Ça nous permet de parler de ça.
C'est éclairant.
Juste une chose. Après, tout dysfonctionne. Tout dysfonctionne parce qu'en on ne parle plus des victimes depuis quelques temps. C'est-à-dire, on trouve formidable qu'un député ait fait acte de transparence, ah, qu'est-ce qu'il est courageux, etc. Alors que je trouve qu'il y a dans sa lettre beaucoup de problèmes que je ne développe pas, mais sur la manière d'auto-justifier son acte. Première chose, je pense qu'aujourd'hui, la réponse ne peut être que judiciaire.
Alors attendez, on va faire les choses une par une.
Ce qui se passe dans les partis politiques
Attendez, il y a plusieurs choses, j'ai compris. Il y a une chose dont vous avez parlé qui est essentielle, la victime. La femme d'Adrien Quatennens.
Céline Quatennens.
Bon, qu'est-ce qu'elle a demandé en réalité ?
Elle a main courante.
Rien.
Et après, elle a dit.
Mais il est très bien.
Elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de poursuite.
Il est très bien que la saisine des parquets soit automatique.
Mais est-ce que vous, on dit matin, midi et soir, il faut écouter les victimes. Écoutons-les. Qu'est-ce qu'elle a demandé ?
Qu'est-ce qu'a dit Mathilde Prévost,
Elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de poursuite d'une part, et elle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de publicité d'autre part.
Je veux juste écouter la parole d'une femme et d'une mère qui, à mon avis, doit se dire en son fort intérieur, j'ai aussi une fille. Tout ça est en train de partir dans une histoire phénoménale.
Et d'échapper à sa sphère intime à elle. C'est-à-dire que vous avez d'autant plus raison qu'en réalité, l'étendue de la sanction échappe complètement à la victime et sa vie privée lui échappe. C'est-à-dire que la façon dont elle entend construire sa vie de famille après le drame qu'elle a subi est méprisée par une action médiatique qui vient exposer sur la place publique quelque chose qu'elle-même voulait réserver au domaine de l'intime. Or, comme elle est en voie de séparation, on pourrait se dire de temps en temps, il faut rendre public un certain nombre d'agressions, ne serait-ce que pour soustraire la victime à son prédateur. Mais en l'espèce, ce n'est absolument pas la nature de la plainte qu'elle avait déposée.
Je voudrais juste le dire parce que tout le monde...
Mais est-ce qu'on trouve positif qu'en cas de main courante sur des violences... en l'occurrence la conjugale, le parquet soit saisi automatiquement.
Oui.
Je trouve que c'est positif.
Ça risque d'avoir un effet contre-productif, parce qu'une femme qui veut, par exemple, elle se dit « je suis en plein divorce, je dépose une main courante pour que ce soit acté et que ce soit éventuellement ensuite montrable dans un divorce ». Mais si elle ne veut pas être soumise à ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire un déballage absolument dégoûtant devant toute la France. Dégoûtant pas de sa part, pas de la, dégoûtant de notre part d'une certaine façon. Si elle ne veut pas, les femmes qui ne veulent pas cela vont aussi hésiter à déposer une main courante. Maintenant, il faut pas être naïf. Une main courante, c'est les policiers. Avec ce que la France insoumise met sur la police tous les jours, ne soyons pas naïfs, si vous voulez.
Et attendez, voilà. Même sur la justice, il n'y a plus de secret d'instruction. Ça fait tellement longtemps qu'on le déplore. Bon, bah, ça arrive à tous les partis politiques, ça arrive à la France insoumise, on le déplore pour eux aussi.
Et par ailleurs, vous trouvez qu'on n'en parle pas,
Elisabeth,
vous trouvez
Elisabeth.
Que c'est une occasion d'en parler, mais
Elisabeth,
on en parle pas de ça.
Je voudrais qu'on écoute ce matin. C'est ça qui m'intéresse, c'est l'aspect politique maintenant. Et regardez le titre que nous avons choisi. Est-ce l'échec des partis politiques? Parce que maintenant, certains disent c'est éclairant et vous allez voir ce que vous allez voir. On va laver plus blanc que blanc. On va sortir nos comités internes, nos commissions, etc. Écoutez, Laurence Rossignol. Alors, Laurence Rossignol, elle a été ministre en charge notamment des droits des femmes. Elle est vice-présidente socialiste du Sénat, donc elle fait partie de la NUPES. Écoutons-la sur la manière de juger de telles affaires.
Il faut des enquêtes internes. Ces enquêtes doivent respecter le principe du contradictoire et le principe de la collégialité. C'est indispensable. Je suis membre d'un parti politique qui est libre de choisir ses candidats. Quand on désigne nos candidats aux élections législatives, on enquête sur ces candidats. C'est-à-dire, on enquête, c'est pas, on ne vient pas...
Vous enquêtez jusqu'où ? Jusqu'à la chambre à coucher ?
Mais qui vous parle de chambre à coucher ?
Mais je ne sais pas. Quelle est la limite d'une enquête ?
Il n'y a aucune.
Il y a des affaires conjugales. Est-ce qu'il faut rentrer dans les affaires de couple ?
Mais les affaires de couple ne posent aucun problème à personne dès lors qu'elles ne relèvent pas des violences, du harcèlement et d'infractions à la déontologie.
Mais pour le savoir, il faut rentrer dans la
mais
maison
non,
et le savoir.
Mais vous avez les faits remontent. Ce qui compte, c'est que les victimes parlent et que nous les entendions et que nous entendions aussi les auteurs mis en cause.
Pourquoi est-ce qu'on vous ferait confiance ?
On est vraiment sur une ligne de crête. C'est-à-dire que
je crois qu'on a même
le fait que des partis politiques, ce qui n'existait pas par le passé, puissent se doter de collectifs pour lorsque des cas sont avérés, signalés en interne, avoir des décisions politiques de mise en retrait. À partir du moment où après il y a la réponse judiciaire, je trouve que c'est un progrès, je le dis tel que ressens, à condition que ces collectifs-là, ces organes, ne pensent pas faire la justice
Laurence,
à la place
Rossignol
de la justice.
Sortez de ce corps. J'ai pas... sincèrement, là, vous adoubez de tels comités. Je vous en prie, qui seront les enquêteurs en chef ? Qui va venir avec l'imperméable de Colombo vous dire non, qu'est-ce que vous avez fait hier soir avec votre femme ?
Je vous ai dit à partir du moment où ces collectifs ne veulent pas rendre la justice à la place de la justice. Si c'est une mise en retrait d'une expression, d'une responsabilité. Mais le temps que la justice fasse son enquête.
Vous êtes hypocrite, vous savez bien que c'est terminé pour leur carrière politique. C'est terminé pour la carrière politique, là.
En réalité, il y a deux séquences dans ce que dit Madame Rossignol. Il y a l'investiture par les partis politiques. Bon, très bien, ça c'est le problème du parti politique. Et si vous n'êtes pas d'accord avec les conditions d'investiture de votre parti politique, vous le quittez. Si les méthodes et les règlements intérieurs ne vous conviennent pas, ce n'est pas une secte, vous sortez. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement l'impact que ça peut avoir sur la vie politique de ces hommes. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans les propos de Madame Rossignol ce matin que j'ai écouté, c'est d'abord qu'elle a dit qu'il fallait évincer la justice de temps en temps. C'était incroyable. Je veux dire, comme déclaration.
Elle a dit puisqu'elle est lente et imparfaite,
Ils sont parfaits.
Donc, si vous voulez, là, il y a quand même un mécanisme qui est extrêmement dangereux, notamment au regard d'un principe fondamental, c'est celui de la présomption d'innocence. Le deuxième sujet avec toutes ces choses qu'on est en train de mettre en avant dans les partis politiques pour garantir une forme de vertu de ceux qui sont appelés à occuper des mandats. C'est heureux. Mais la deuxième chose, et qui est extraordinaire, c'est un peu l'introduction à laquelle vous livriez tout à l'heure. C'est qu'on s'intéresse beaucoup plus à la sphère privée qu'à la sphère publique. C'est-à-dire qu'on continue à investir des gens qui sont coupables de détournement de fonds publics, de gens qui ont émis des fausses factures pour financer leur parti politique. Ça intéresse la sphère publique. Et on vient vous dire, je reprends les propos de Kevin tout à l'heure, s'il a mis une claque une fois, il est capable d'en mettre deux fois. D'abord, vous n'en savez rien et tout le monde est capable de mettre une claque une fois.
Vous étiez là il y a un an ou deux ans ou trois ans, vous avez vu le mouvement MeToo quand même. Vous avez
vu ce qui s'est passé
sous brosseau. C'est pour ça qu'on est... Vous avez employé le mot vertu.
Non, mais moi je voudrais dire un mot justement.
C'est heureux la vertu.
Ça c'est la suite de MeToo. C'est-à-dire que dans MeToo, on a encouragé les femmes. On a encouragé les femmes à dénoncer en place publique des gens sans la moindre preuve, sans procédure contradictoire. On les a encouragées en leur disant « c'est merveilleux, la parole se libère comme si toute parole qui se libère était sacrée ». Je veux dire, et excusez-moi, ça, on le paye aujourd'hui.
C'était mieux avant.
Pardon, oui. On le paye aujourd'hui. Avant. Mais moi, je pense que les excès de MeToo sont très graves. Alors maintenant, je voudrais terminer. Oui, d'accord, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je peux quand même terminer mes phrases.
Bien sûr.
Je trouve que le mouvement MeToo a eu ses effets délétères. Si vous voulez, de décrédibiliser la justice et de sanctifier la parole des femmes comme si les femmes, elles étaient des saintes, qu'elles ne mentaient jamais, qu'elles n'avaient jamais... Pardon, Kevin, je termine. Après, je finis. Juste une chose. Ce qui est intéressant dans la France insoumise, c'est que dans l'affaire Tahabouaf, je vous rappelle qu'ils l'ont débranché en essayant de faire passer son débranchage pour le fait des mauvaises manières de l'extrême droite.
C'est ce que j'ai rappelé ce matin en lui disant comment on peut vous faire confiance alors que sur l'affaire Tahabouaf, vous l'avez, vous en tous les cas, la France insoumise l'a enrobée d'un ruban disant accusation de racisme. Mais oui.
Bon. Moi, je suis désolé. En tant qu'électeur, j'ai envie de savoir si un homme est violent ou pas avec les femmes. C'est un critère qui est important dans mon choix. Et de manière plus générale, c'est la question politique qu'il y a derrière. Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand même la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Nous avons quand même Adrien Quatennens qui nous raconte qu'il gifle sa femme. Lui, aussitôt, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, quel courage ! Quelle dignité ! C'est formidable ! Mais est-ce que vous vous rendez compte du message qu'il envoie ? Et là, on a l'impression, finalement, qu'il y a une justice interne qui se substitue à la véritable justice. Moi, j'attends de savoir ce que M. Dupond-Moretti a à dire. Mais quand M. Dupond-Moretti nous raconte, par exemple, qu'il y a des femmes qui rêvent de se faire siffler ou que celles qui ne sont pas capables de dire non à un homme sont des potiches, moi ça me pose problème. La vérité, c'est qu'il y a Monsieur Dupond-Moretti, la vérité c'est qu'il y a, une distance générationnelle sur cette question. La nouvelle génération n'accepte plus ces violences sexistes et c'est fort heureux. Donc à un moment donné, MeToo, il y a sans doute quelques excès,
attendez,
mais ça a permis aux femmes de libérer leur parole.
Personne,
et c'est très
bien. Personne n'accepte les violences sexistes, mais comment vous savez si elle a eu lieu? Comment savez-vous si elle a eu lieu? Kevin, on n'est pas en train de dire des choses totalement contraires. Personne ne les admet. Personne n'a envie de voter pour un individu violent, a fortiori quand c'est dans la sphère conjugale. Très bien. Une fois qu'on a posé ça, comment vous savez si c'est vrai, s'il a été violent ou pas, tant que la justice ne s'est pas prononcée? Et puisque vous parliez des électeurs, Kevin, il y a quelque chose de très intéressant. Les électeurs ont massivement voté pour un député qui était accusé en pleine campagne législative, Damien Abad, qui était accusé de faits de violences sexuelles.
Mais qui n'était pas jugé. Pardon, je lis là, je découvre une chose.
Il n'a pas écrit de lettre au siège de
l'Assemblée. Pour dire que ça ne va pas s'arrêter.
Une information
maintenant, Marlène Schiappa accuse, je crois que c'est Hugo Bernalicis,
oui, de la France Insoumise,
d'avoir eu... À quelle violence sexiste, je crois qu'il a envoyé un baiser pendant que Brune Poirson parlait ou quelque chose comme ça. Excusez-moi, on est en train aussi de nous construire un monde, si vous voulez, où les femmes sont des petites choses fragiles qui ne peuvent pas tolérer, si vous voulez. Mais enfin, on peut répondre, on peut...
Arrêtons,
moi je vous dis, je ne veux pas vivre dans ce monde-là.
C'est que les guillotineurs, entre guillemets, d'hier sont les guillotineurs, mais il faut le dire, ils ont fait une morale maximaliste, moraline, une ivresse de la morale, et ils découvrent aujourd'hui le mouvement du balancier qui revient en pleine figure.
Est-ce qu'on peut s'entendre sur une réalité, un constat, que le mouvement MeToo est pour la société en général plutôt une avancée positive et qu'il y a eu des excès, des exploitations, des opérations politiques,
Je n'aime pas le mouvement MeToo.
Des personnes qui ont pu s'appuyer sur ça pour régler des comptes. Mais est-ce qu'on peut se dire les deux?
Moi, je n'aime pas le mouvement MeToo. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un mouvement fondé sur la délation.
Ce qui m'intéresse...
Quand on a un tel nombre de féminicides dans le pays, quand on a un tel climat de violence sexiste et sexuelle...
Vous êtes dingue
dans le monde de C'était, mais rappelez-vous avant, mais, partout il y a des lieux de pouvoir,
bah justement,
politique, médiatique, entreprise, la situation faite aux femmes.
Enfin, Olivier, tu penses que... Non, mais Olivier,
tu ne peux pas dire...
Mais s'il vous plaît,
tu peux me rappeler sérieusement quand on a... des situations par le passé... terriblement difficile.
Non, mais on est en Afghanistan, quoi. Donc,
on peut débattre de manière nuancée.
Mais non, mais arrêtez, excusez-moi, mais c'est nuancé de me dire quand on a un tel climat,
je
en réalité.
Je te dis simplement, Elisabeth.
Vous êtes géniaux, vous défendez les femmes, mais dès que j'ouvre la bouche, je ne peux pas parler.
Alors, excusez-moi,
voilà un excès. Voilà.
C'est parce que celui qui m'a toujours privé de parole, tu me le montres.
Vous avez vu qu'ils sont sexistes, hein?
Oui.
Non, mais attendez. On vous comprend, je vous assure. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est les partis politiques qui vont maintenant... Il va y avoir des enquêteurs en chef. Moi, j'aimerais bien savoir qui va être nommé enquêteur en chef, par exemple, au sein de la... S'il reste quelqu'un qui n'a pas de problème.
Et quelle garantie d'indépendance offre-t-il?
Eh bien, bravo. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on écoute de nouveau Laurence Rossignol, parce que quand même, c'est vertigineux. Sur la justice des partis avant la justice de la République.
Avant, à la place.
Et on, sur ce sujet et d'autres, à tout de suite.
Et elle est législateur. Hein.
Eh oui. D'être avec nous, Midi News. La suite, on va revenir évidemment sur le discours, les propos ce matin de Vladimir Poutine. Est-ce un tournant? Le leader russe qui se dit prêt à utiliser tous les moyens de défense, c'est une mobilisation partielle qu'il a clamée et proclamée. On va en parler, mais tout d'abord, le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
L'Occident essaye de détruire la Russie, ce sont les mots de Vladimir Poutine ce matin lors d'une allocution télévisée après l'annonce de référendum en Ukraine. Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. L'épidémie de Covid repart à la hausse. Regardez les derniers chiffres, plus de 51 000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières heures en France. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Enfin, le taux d'incidence est de 292 contaminés pour 100 000 habitants. Enfin, la pilule du lendemain sera gratuite pour toutes les femmes. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, François Braun. Une avancée pour les femmes, car l'accès à la contraception d'urgence était disponible gratuitement et sans ordonnance, uniquement pour les mineurs. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans.
Et dans l'actualité, évidemment, beaucoup de phrases lourdes de sens. L'Occident veut détruire la Russie. Ce sont les propos ce matin de Vladimir Poutine. Et dans sa déclaration, qui a été amplement commentée depuis quelques heures, beaucoup de phrases sont évidemment analysées, relevées. Une en particulier est très lourde de sens pour appréhender la vision du monde du leader russe. Lorsque Poutine dénonce la guerre menée par l'Occident contre la Russie, est-ce un nouveau choc des civilisations qu'il dessine, tant d'années après le fameux choc théorisé par Samuel Huntington? On va en parler, mais tout d'abord le rappel des faits de ce qui a été dit et des potentielles conséquences avec Yann Effelé.
Un discours enregistré et encore un cran gravi dans l'escalade. Vladimir Poutine accuse les Occidentaux de vouloir détruire la Russie. Une fois encore, il brandit la menace nucléaire.
Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. Pour protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
Ces dernières semaines, des contre-offensives éclairs de Kiev ont contraint l'armée russe à reculer. En réaction, le président russe mobilise 300 000 réservistes.
Pour assurer la sécurité de notre peuple et des populations des territoires libérés, j'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de procéder à une mobilisation partielle dans la Fédération de Russie.
Les échecs militaires récents semblent avoir accéléré le calendrier russe. Ces images de véhicules abandonnés et détruits ont fait le tour du monde, obligeant Moscou à réagir. Plusieurs villes clés conquises par la Russie au prix de lourdes pertes dans l'est de l'Ukraine ont été perdues.
Alors, Poutine qui brandit la menace nucléaire face à un Occident qui essaye de le détruire, est-ce un tournant? Poutine qui se dit également prêt à utiliser tous les moyens de défense à sa disposition et Poutine qui mobilise les réservistes. C'est une mobilisation partielle pour l'heure. Évidemment, le leader russe ne bat pas aussi sa dernière carte. Il faut savoir aussi que le vivier est en train de se tarir, que tout le monde est appelé depuis les campagnes, notamment au plus profond de la Russie. Mais il y a une phrase que je voudrais que l'on commente ensemble, c'est ce nouveau choc des civilisations, Elisabeth Lévy, qui l'a théorisé. Russie Occident. Alors, on a tous en tête le choc tel qu'il avait été appréhendé par Samuel Huntington. Et là, il met en scène, alors, c'est sa vision du monde.
Dans la situation où on est maintenant, oui, on n'en est pas loin. Et c'est assez malheureux, car il y a tout de même... la Russie est un pays très partiellement européen. Et je parle de la Russie, hein, je ne parle pas de Vladimir Poutine. Et donc, c'est malheureux. Juste sur sa phrase, évidemment... si on prend les événements simplement à partir du 24 février, on se dit, il se moque de nous. Il envahit un pays. Il se plaint que les autres qui n'ont pas un bon souvenir de l'amitié russe, l'amitié soviétique en l'occurrence, aient demandé à adhérer à l'OTAN parce qu'ils n'ont pas envie, si vous voulez, de se retrouver en tête à tête avec ce voisin-là. Donc, évidemment, il y a des raisons pour beaucoup de gens autour de craindre la Russie. Il ne faut pas néanmoins... je pense passer complètement sous silence le fait que dans les années qui ont précédé la guerre en Ukraine, qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine, la politique américaine a consisté effectivement à affaiblir la Russie le plus possible, à la faire disparaître comme acteur important des relations internationales, et je pense que ce n'était pas une bonne chose. Mais aujourd'hui... comme l'a dit, aujourd'hui, si vous voulez, il menace la terre entière et il fait la victime. C'est un peu...
Attendez, la terre entière, non. Parce que
non, vous avez raison.
N'est pas la terre entière. Et c'est ça, il faut vraiment qu'on se rende compte. Parce que nous parlons de la Chine, de l'Inde et du tiers de l'humanité.
Il faut bien prendre la mesure de la séquence qui s'ouvre, qui est de très haute intensité. Les grands de ce monde défilent à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU... Et Vladimir Poutine, d'une certaine manière, s'est invité dans ce moment diplomatique et politique en intervenant depuis Moscou. Le résultat des référendums dans les territoires ne fait peu de doute. Et donc, il peut derrière dire, mais les intérêts vitaux, je dis ce que sa stratégie, de la Russie seront menacés si les Ukrainiens attaquent ces territoires. Zelensky en dit la semaine dernière, les objectifs de guerre, c'est y compris la reconquête de la Crimée. On est donc dans un moment de vive tension, avec, moi, ce que je trouve très, très dangereux, l'absence de réponse internationale.
Alors, on va en parler, mais il faut dire les choses, il faut dire enfin, la vérité que nos téléspectateurs connaissent. En fait, qui peut parler? Qui peut réagir? On attend qui pour savoir ce qui va se passer, mis à part Poutine? Les États-Unis?
Il n'y a pas de...
Aujourd'hui? C'est une guerre qui est face à Poutine. C'est une guerre qui est aussi américano-ukrainienne, c'est-à-dire toute la reconquête,
la
contre-offensive est américano-ukrainienne. Donc on attend aussi de savoir comment les Américains vont réagir. En attendant, je voudrais qu'on écoute quand même, et c'est là la question que je vous pose, c'est quelle est l'utilité, mis à part le fait de montrer qu'on est évidemment contre tout cela, à quoi servent les paroles de nos dirigeants aujourd'hui? Quand Emmanuel Macron, hier, à la tribune, de l'ONU tient ses propos bien, qui tombent sous le sens, mais à quoi ça sert?
Par exemple, il a pointé des pays qui n'ont pas pris position. Est-ce que ces pays vont réagir ou pas sur l'injonction d'Emmanuel Macron?
Mais vous pensez que la Chine et l'Inde vont réagir?
Non, je pense qu'ils pensent...
Ils n'obéissent pas à Emmanuel Macron?
Non, mais il a eu un mérite...
Juste, écoutons et vous réagissez juste après, Carbone 16, pardonnez-moi. On l'écoute d'abord et je reviens vers...
Je sais aussi que certains pays, ici représentés, sont restés dans une forme de neutralité à l'égard de cette guerre. Mais je veux vous le dire avec la plus grande des nettetés aujourd'hui. Qui voudrait mimer le combat des non-alignés en refusant de s'exprimer clairement se trompe et prend une responsabilité historique. Le combat des non-alignés, c'était un combat pour la paix. Le combat des non-alignés, c'était un combat au service de la souveraineté des États pour l'intégrité territoriale de chacun. Le combat des non-alignés, c'est cela. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international, sans lequel la paix n'est possible. La Russie s'emploie à installer l'idée, aujourd'hui, d'un double standard. Mais la guerre en Ukraine ne doit être un conflit indifférent pour personne. Elle est proche pour les Européens qui ont choisi de soutenir l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie. Elle est plus lointaine pour beaucoup d'entre vous, mais nous en avons tous les conséquences directes et nous avons tous un rôle à jouer pour y mettre un terme. car nous en payons tous le prix.
Pardonnez-moi, avec tout le respect qu'on doit au président de la République, à quoi sert de telles déclarations? Est-ce que demain, l'Inde et la Chine vont bouger compte tenu de tout? Pas les intérêts seulement, mais le basculement géopolitique depuis des années. À quoi ça sert, à part l'indignation?
Alors, il faut qu'on élargisse la réflexion. On peut se demander à quoi sert l'ONU.
Oui.
Parce que, si vous voulez, c'est le lieu des pétitions de principe. Donc, qu'on vienne y exprimer des incantations... n'est pas
bravo
nouveau.
Bravo pour le mot.
Regardez la guerre en Irak, provoquée par les Américains, dénoncée par un très beau discours de Dominique de Villepin à l'époque, à la tribune des Nations Unies. Ça a provoqué quoi, la désagrégation de l'Irak? Ça a provoqué Daesh et une vague de terrorisme. Très bien. Ça n'a eu, les débats à l'ONU n'ont jamais eu aucune influence sur le cours du monde. Les actions de l'ONU, si on met à part la guerre de Corée, et encore, parce qu'il y avait le bataillon américain et le bataillon français, l'ONU n'a jamais rien produit. Le mérite du discours du président de la République hier, c'est de dénoncer une forme de duplicité, mais qui peut se retourner contre nous. C'est-à-dire de dire, vous ne pouvez pas rester neutre dans ce conflit qui nous affecte tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne sommes pas neutres.
Donc on veut
ça veut dire qu'on devient des co-belligérants. C'est ça la limite.
Donc on veut que des puissances telles que la Chine et l'Inde mettent
si
le doigt dans
cette officiellement, ça, on franchit un pas.
Mais il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de cette guerre. On dit le monde entier contre la Russie. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a l'Occident, mais il y a autre chose. Pourquoi on oublie cette partie du monde aujourd'hui? Pourquoi elle est occultée? Pourquoi, vue de France et d'Europe, elle est complètement absente?
On appelle l'ethnocentrisme. On ne voit le monde qu'à partir de l'Occident.
Oui, c'est ça. Ça s'appelle de l'ethnocentrisme. On se sent encore tout puissant. On pense que nous, Européens, évidemment, on peut infléchir le cours du monde, alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas un bloc contre Vladimir Poutine. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, pour revenir sur ce qu'on a dit, mais enfin, chaque dirigeant parle à son opinion publique. Emmanuel Macron sait très bien que son discours n'aura aucun impact sur l'Inde ou encore sur la Chine. Il est en train de dire aux Français, nous sommes en train de nous battre pour des valeurs, nous sommes en train de nous battre pour des principes, et c'est pour ça que vous devez accepter les restrictions et les conséquences des sanctions. Quant à Vladimir Poutine, il fait exactement la même chose, parce qu'on sent bien que l'opinion publique russe est en train de fléchir, les soldats n'ont pas le moral, on retrouve de plus en plus de lettres de soldats qui trouvent que cette guerre a de plus en plus aucun sens, les cercueils sont en train de revenir, donc il est en train de dire à la population russe, écoutez, je décrète la mobilisation partielle. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui est l'Occident, avec des valeurs décadentes, des valeurs qui remettent en cause notre fondement, et vous devez me soutenir, parce que sinon c'est l'ensemble de la Russie qui va être aux abois. Ça ne sert qu'à ça. Les opinions publiques ont une place très importante dans le cadre des conflits.
Mais vous savez, Poutine, ça fait très longtemps qu'il met en avant cette confrontation entre Occident et Russie, en jouant, comme vous l'avez dit, sur une sorte de déliquescence de nos valeurs. Alors,
nos sociétés libérales, en réalité.
C'est une perte de sens, de perte de sacré, de perte de tradition.
C'est un discours qu'il tient depuis des années,
et c'est comme ça qu'il
sans qu'il n'y ait jamais eu une alerte dans les pays, dans le nôtre, en disant « attention ». C'est quand même quelque chose qu'il installe dans son opinion publique. Ça, c'est une vieille antienne d'ailleurs du monde russophone, pas au
d'autant
plus que pour les Russes, même ceux qui n'aiment pas Poutine, je pense, il y a une véritable souffrance de la perte de l'influence russe. Et je répète, je pense que vouloir la réduire à rien, ce qui a été fait dans les années à partir des années 90, fin des années 2000, par l'Amérique, je pense, était aussi une erreur. Et nous, on s'est un peu laissé embarquer là-dedans. Maintenant, je suis quand même frappée quand je vois ici reprendre les critiques de Poutine sur notre Occident décadent, parce que la décadence, si vous voulez, comme ce qu'ils appellent la décadence, c'est le fait que nos sociétés sont des sociétés libérales, chose à quoi je suis personnellement très attachée. Donc, la Russie, c'est un pays européen, mais il y a quand même plusieurs Europes. Et ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on voit, par exemple, en Tchéquie, je crois, en République tchèque, il y a eu des manifestations contre l'engagement auprès de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il y a aussi des opinions qui sont partagées, parce que culturellement, elles sont partagées. Je pense qu'il y a une partie des Hongrois qui se sentent aussi proches de la Russie de ce point de vue-là. Donc,
Je voudrais qu'on écoute parce que depuis ce matin, il y a une mobilisation évidemment de toutes les chancelleries, toutes les capitales européennes, notamment en Allemagne. On va écouter le son du vice-chancelier allemand. Écoutez ce qu'il dit sur cette situation depuis ce matin qui a changé.
La Russie a ordonné une mobilisation partielle et poursuit l'escalade de cette guerre d'agression contre l'Ukraine, ce qui est contraire au droit international. Il s'agit d'une mauvaise décision de la part de la Russie. Nous allons bien sûr en discuter et nous concerter sur le plan politique pour savoir comment réagir. En tout cas, il est clair pour moi et pour le gouvernement allemand que nous continuerons à soutenir pleinement l'Ukraine dans ces moments difficiles.
Vous savez, moi j'ai en tête une phrase d'Ursula von der Leyen qui nous dit, oui, on est d'accord, on va soutenir pleinement les Ukrainiens et dit, il faut traduire Poutine devant la justice. Qui a donné mandat à cette femme de nous entraîner tous, parce que notre objectif quand même c'est de s'en sortir et qu'un jour il y ait la paix.
D'autant plus que les stratégies de sortie de guerre...
Quelle est sa légitimité démocratique pour entraîner aujourd'hui tout un continent dans ce qu'elle...
Et puis, de toute façon, c'est un vœu pieux, cette affaire de justice internationale. Mais
d'autant plus qu'il faut quand même continuer à réfléchir à la sortie du conflit possible pour la Russie.
Qui y réfléchit? Est-ce que vous avez...
Emmanuel Macron, un petit peu, quand même.
Est-ce que vous avez le début sur une feuille?
Pas dans cette déclaration, mais reconnaissons-lui que depuis le début, il a quand même d'abord... Quand Bruno Le Maire nous a expliqué qu'il fallait mettre la Russie à genoux, il s'est fait recadrer tout de suite, et qu'Emmanuel Macron a tenu... Attendez, on peut au moins lui rendre ce point. Oui. Il a tenu à garder un contact avec la Russie, ce que n'auraient pas fait beaucoup d'autres dirigeants.
Contre l'opinion publique.
Oui, je suis d'accord. Il y a un problème démocratique autour de cette guerre en Ukraine. On a l'impression qu'Emmanuel Macron a pris des décisions tout seul, que le Parlement a été écarté, que les Français ont été écartés et que finalement les Français ont de plus en plus le sentiment d'être les sacrifiés d'une guerre qui ne les concerne pas. Et il y a au minimum un problème de pédagogie et au maximum un problème de débat démocratique. Et on nous raconte souvent que les sanctions contre...
On nous dit c'est au nom des valeurs démocratiques.
C'est important.
En défendant les Ukrainiens, on défend l'Europe, défend la démocratie.
Mais moi, je vais vous dire.
Et donc, on doit consentir à tous les
énergies. Moi, je suis d'accord avec les énergies. Kevin a raison sur l'absence de grands moments parlementaires au regard de l'évolution du conflit. Puisque le statut de non-belligérant est quand même maintenant assez ténu.
Et moi, je suis d'accord avec
ça. On est tous partie prenante.
Évidemment, oui. Mais officiellement, on n'est pas co-belligérants.
Ça demanderait la convocation du Parlement.
Vous savez que officiellement, c'est pas la France qui livre des armes, ce sont les sociétés et les entreprises françaises qui livrent. La France qui ne condamne pas.
Mais
votre question reste entière. Qu'est-ce qui autorise même juridiquement Ursula von der Leyen à nous engager plus avant dans le conflit?
Rien.
Elle est en train de déborder du cadre de son mandat.
Et ça, bien sûr,
c'est intéressant sur le mode.
Son mandat,
c'est de diriger la Commission. Elle n'a rien d'autre comme mandat. Et par conséquent, si vous voulez, c'est là aussi fascinant de voir comme cette guerre est l'occasion de violer un certain nombre de règles institutionnelles au nom du bien. Et parfois, ça a sauvé dans l'histoire de l'humanité. La seule question, et c'est là que j'en reviens quand même au débat démocratique, il ne peut pas y en avoir, puisque officiellement nous ne sommes pas co-belligérants. Y en aurait-il un? Par quoi serait-il éclairé? La seule chose qui est sûre, c'est que si les Français, si je vous suis, Kevin, croyaient que cette guerre ne les concernait pas, ils avaient bien tort. Parce qu'elle les concerne au premier rang. D'abord, parce qu'on en parle suffisamment sur cette chaîne, il y a quand même une question de souveraineté. La souveraineté des Ukrainiens a été violée par les Russes.
Ça,
c'est
d'accord.
Le premier sujet.
Et
le deuxième sujet, c'est que la guerre n'est pas sans conséquences économiques.
Vous avez dit au nom du bien. Il faut se méfier. Hein, parce qu'au nom du bien, on a mené
Alors, justement,
les avocats sont les premiers convaincus de ce que vous dites.
Je voudrais répondre à ça. Parce que, si vous voulez, en gros, nous avons tous en tête, de façon un peu comme ça, fantomatique, la guerre contre Hitler. Mais on n'a pas tous les jours, heureusement, à Hitler. Et Poutine est tout à fait condamnable, mais ça n'est pas Hitler. Ça n'est pas la même chose que la guerre que l'Europe a dû subir d'abord et mener ensuite. Et d'ailleurs, pas que l'Europe. Je vous rappelle que d'autres pays extra-européens ont contribué aussi à cette guerre. Donc, je pense que ce modèle nous obscurcit un peu la tête. Mais moi, je voudrais revenir sur les propos de Mme von der Leyen. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, je commence à en avoir assez de voir cette dame qui n'est élu par personne, et je veux dire, se permettre de parler en notre nom, et puis et de faire la belle. Parce que cette histoire de justice internationale, pardonnez-moi, moi j'ai suivi beaucoup les conflits en Yougoslavie, en fait, ça ne marche que dans deux cas, avec deux conditions. Un, évidemment, c'est forcément la justice des vainqueurs. D'abord, il faut que vous soyez à Berlin pour avoir les types. Si vous voulez, je pense au procès de Nuremberg. Si les alliés n'avaient pas été à Berlin, si ils n'avaient pas pu attraper ces gens, bah, ils n'auraient jamais été jugés. Et deux, il faut qu'ils soient petits, si vous voulez. C'est-à-dire, on a pu juger Milosevic. Il est bien clair qu'on ne va pas juger... Enfin, moi, je pense c'est une aberration de nous expliquer que ça va se régler comme ça. Parce qu'à la fin, il me semble que la paix, c'est plus important... C'est plus important pour les peuples que de savoir si on va traduire Poutine devant un tribunal, et on ne le fera pas.
Alors, vous avez raison, et c'est pour ça même que les États-Unis n'ont jamais ratifié le statut de la Cour pénale internationale. En même temps, peut-on envisager une paix sans justice ? C'est compliqué.
Et de toute façon,
on n'en est pas là.
Il y en a militaire. Tout le temps, de paix sans justice.
Elisabeth, il y a la guerre militaire, mais j'insiste vraiment sur la confrontation même civilisationnelle, parce que Poutine la met en scène depuis très longtemps, et celle-ci peut durer bien plus que la guerre militaire en Ukraine. Elle peut aller bien au-delà pendant des années, nous faire entrer dans un choc des civilisations où il a vraiment, alors à tort ou à raison, il décrit le déclin de l'Occident.
Non, mais il y a un certain déclin, mais qui n'est peut-être pas là où on le voit. C'est pas parce que, si vous voulez, il y a des homosexuels qui peuvent librement vivre librement que l'Occident est décadent. Il est décadent pour d'autres raisons, si vous voulez. Or, Poutine insiste beaucoup là-dessus, si vous voulez. Pour lui, je veux dire, le fantasme de l'Europe qu'il décrit, si vous voulez, c'est une espèce de continent livré aux LGBT. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des lobbies et qu'on ne peut pas les critiquer, au contraire, mais c'est une vision qui est complètement fantasmatique, si vous voulez.
On ne comprend rien à la psychologie de Poutine si on oublie qu'il est le produit d'une humiliation, de la sortie de la Russie, de l'URSS, de la Russie, de l'histoire.
Je suis d'accord.
Et il a fait son parcours politique sur le thème du retour de la Russie dans le monde. Et le temps là de la guerre n'est pour lui qu'une étape dans un objectif
de
plus longue haleine.
Mais
avant, on avait une belle diplomatie en France quand même. On avait une belle diplomatie. C'est-à-dire, ça réfléchissait, ça produisait. Là, j'ai l'impression que la communication a pris le dessus sur l'art diplomatique.
Eh bien, on va en parler.
Y compris se mettre dans la tête de du concurrent, de l'adversaire.
Une pause. On va parler de l'art diplomatique. On va parler aussi de l'art de la guerre. Parce que quand Poutine dit qu'il est prêt à utiliser tous les moyens de défense, que répond l'Union européenne à l'instant ? Mais c'est parce qu'il est acculé qu'il dit cela. Méfions-nous d'un animal blessé. Méfions-nous d'une réaction comme celle-là sur ce sujet et d'autres. On se retrouve dans quelques instants. L'actualité du jour, largement dominée par les propos de Vladimir Poutine, qui a justifié une mobilisation partielle en Russie face à une menace de l'Occident. On va continuer à en parler, évidemment, avec nos invités. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour, Nelly.
Bonjour Sonia. Et dans ce nouvel épisode, ce nouveau chapitre de l'escalade entre la Russie et l'Occident, réaction de l'ambassadrice américaine avec ces mots, des référendums, dit-elle, et une mobilisation simulée sont des signes de faiblesse d'échec russe. Les États-Unis ne reconnaîtront jamais la revendication de la Russie sur un territoire ukrainien prétendument annexé. Nous continuerons, conclut-elle, à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Dans l'actualité, mais plus près de nous à présent, Elisabeth Borne s'entretient aujourd'hui à Matignon avec les présidents de groupes parlementaires pour tenter de déminer une session qui s'annonce d'ores et déjà musclée. Explication sur place d'Éric de Rydmaten.
C'était une réunion très attendue. Elisabeth Borne veut ce dialogue, elle veut ces échanges, cette concertation. Alors bien sûr, le sujet numéro un, c'est la réforme des retraites. Aurore Berger, qui représente le groupe Renaissance, c'est l'allié d'Emmanuel Macron, est venu avec Jean-Paul Mattei pour le Modem. Eh bien, eux, bien entendu, ils sont pour cette réforme. Pas question d'immobilisme, c'est aussi une question de déficit qui a été abordée. Donc l'urgence est là. Claude Maluret, d'ailleurs, pour les Indépendants, le dit. Cette réforme, c'est pas une question d'année, c'est une question de moi. Les socialistes, c'est différent. André Chassaigne, qui représente la NUPES, estime, lui, que tout cela va créer le désordre dans le pays et que Elisabeth Borne n'apporte pas de réponse. Elle veut nous vendre un âne dans un sac, a-t-il ironisé donc à la sortie de Matignon. Voilà, en résumé, vous voyez, c'est une réunion de concertation qui va durer toute la journée avec d'autres groupes parlementaires, mais on a quand même vraiment l'impression que les jeux sont faits.
A signaler aussi ces manifestations de policiers à Toulon contre le projet de réforme dans leur corps de métier au sein de la police judiciaire. On voit d'un très mauvais œil ce projet. Il prévoit de placer tous les services de police sous l'autorité d'un seul directeur départemental de la police nationale. La police judiciaire redoute donc sa disparition. Écoutez.
Le ministre de l'Intérieur devait se déplacer de partout en France, dans les zones qui sont tenues par la police judiciaire, pour venir à notre rencontre, pour écouter nos craintes par rapport à cette réforme. Et c'est pas lui qui se déplace, c'est son directeur général. Aucune écoute envers les fonctionnaires, un auditoire restreint, trié sur le volet et par le haut au niveau hiérarchique. Donc il y a vraiment aucun dialogue, aucune écoute par rapport aux craintes qu'on a vis-à-vis de cette réforme.
On savait déjà que les victimes de violences sexuelles dans l'enfance en subissaient les conséquences traumatiques à l'âge adulte. Eh bien, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants tire désormais encore plus la sonnette d'alarme avec ces mots.
73% des plaintes font l'objet d'un classement sans suite. Ceci doit amener à une remise en question de toute la chaîne depuis le repérage des violences sexuelles jusqu'à la décision judiciaire. Renforcer nos capacités de repérage. Renforcer le déroulement de l'enquête pénale, l'audition de l'enfant selon le protocole NICHD qui renforce la procédure. Des experts, psychologues, psychiatres formés, spécialisés sur les violences sexuelles.
Et puis l'épidémie de Covid repart à la hausse. Plus de 51 000 nouveaux cas recensés ces dernières heures en France. Le taux de reproduction étant de 1,4, ce qui veut dire qu'une personne malade en contamine plus d'une autre. Écoutez à ce propos le professeur Philippe Amouyel.
On sent qu'on est en pleine reprise épidémique. Hein, ça, c'est clairement l'effet de la rentrée. On l'attendait, cette reprise. On est à des chiffres qui sont aux alentours de 300 d'incidence pour 100 000 habitants et par semaine. Je vous rappelle que le taux d'alerte est à 50. Mais la différence, c'est que notre population a bénéficié et de vaccins et d'infections en nombre important en raison de l'apparition du variant Omicron.
Voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour la suite Sonia.
Bien sûr, et vous en avez parlé en ouverture de votre journal, Nelly, c'est le plus important. Poutine qui a justifié une mobilisation partielle en Russie face à une menace de l'Occident. Il a par ailleurs rappelé que la Russie était dotée de l'arme nucléaire et qu'elle ne manquerait pas de l'utiliser si nécessaire. Alors avec nos invités ce midi, on va poser la question. Qui sont aujourd'hui les chercheurs de paix? Est-ce qu'il y en a encore? Parce que là, on est dans une escalade dangereuse. Est-ce qu'il faut une approche réaliste plutôt qu'une approche morale de ce conflit? Et faut-il se laisser aussi entraîner sur une pente dangereuse sur fond d'arsenaux nucléaires, puisqu'il est question de cela? Avant de vous présenter et de rappeler qui est sur ce plateau, on va aller directement aux États-Unis. Évidemment, on attend la réaction américaine. Nous sommes avec notre correspondante Elisabeth Guedel. Bonjour à vous, Elisabeth. C'est la réaction qui est attendue peut-être au plus haut sommet avec Joe Biden. On a envie de savoir, Elisabeth, comment aujourd'hui les États-Unis réagissent à une telle déclaration de Vladimir Poutine.
Alors la Maison-Blanche n'a pas encore réagi directement à l'annonce de Vladimir Poutine, il est encore tôt ici, mais les États-Unis s'attendaient à l'annonce d'une nouvelle mobilisation de troupes, en l'occurrence des troupes de réservistes. C'est un signe pour les Américains d'essoufflement de l'offensive russe, un signe de faiblesse, a même tweeté l'ambassadrice américaine à Kiev. Joe Biden, donc, il va s'exprimer tout à l'heure à la tribune des Nations Unies, devrait, comme la plupart des dirigeants occidentaux, signaler que les résultats de ces référendums ne seront pas crédibles, ne seront pas reconnus. Et puis, comme Emmanuel Macron, il va aussi s'atteler à mettre en garde contre une nouvelle fracture, vous savez, entre l'Ouest et le reste du monde. Il devrait annoncer une nouvelle aide, un soutien à tous les pays qui sont en pénurie d'aide alimentaire pour montrer que l'Occident n'oublie pas ces pays qui sont indirectement touchés par la guerre. Mais il y a une grande préoccupation, évidemment, Vladimir Poutine a appuyé sur ce bouton, si je peux dire, c'est le nucléaire, le risque nucléaire. C'est une grande préoccupation ici à Washington et Joe Biden aura l'occasion d'en parler d'ailleurs avec Emmanuel Macron tout à l'heure puisqu'une rencontre bilatérale est prévue ici à l'ONU à New York.
On sera attentif à cela. Et Elisabeth, de votre point de vue, d'ailleurs la tonalité, y compris dans les journaux américains, est-ce que cette menace renouvelée de Poutine est prise au sérieux ou est-ce que eh bien, certains emploient le mot, est-il approprié, je ne sais pas, mais de bluff aujourd'hui?
Ah, il y a les deux, le bluff, mais tout, on sait qu'avec Vladimir Poutine, eh bien, on ne sait pas finalement ce qu'il en est exactement. Les Américains pensent que Vladimir Poutine n'a pas intérêt à jouer sur ce risque-là nucléaire, mais il y a beaucoup d'incertitudes pour les Américains malgré tout.
Merci beaucoup. Merci Elisabeth Guedel, notre correspondante CNews aux États-Unis pour ces informations. On va continuer à en parler avec, sur ce plateau, Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Olivier Dartigol, Raphaël Steinville nous a rejoint. Bonjour à vous.
Bonsoir.
Et merci d'être là, rédacteur en chef auprès de Valeurs Actuelles et notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman est avec nous. Harold, une première remarque. Quand on voit une telle escalade avec des mots qui sont employés comme évidemment l'arsenal nucléaire, on a envie de vous demander, mais où sont les chercheurs de paix aujourd'hui? Voilà un mot que l'on entend peu, la paix. On entend l'escalade, on entend l'arsenal nucléaire, on entend la mobilisation partielle, on entend Emmanuel Macron à l'ONU qui dit cela. Mais où est le mot paix? Il est loin?
Alors, Emmanuel Macron l'a utilisé, pour être juste, mais Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, en parle beaucoup lui aussi. Mais il est vrai que ce n'est pas vraiment le moment des gens qui sont caractérisés par la paix, c'est le moment des échanges entre les puissances. Ce qui mènerait à un équilibre, à une désescalade. Et la personne qui est la mieux placée pour l'instant, c'est Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui un peu joue sur les deux tableaux en essayant d'être gentil avec l'Ukraine et en lui vendant des drones, en même temps qu'il va il rencontre Poutine de façon tout à fait décontractée. Donc lui fait de l'équilibrisme et un petit peu le premier ministre indien Narendra Modi, lui aussi. Il a à peu près parlé de paix. Il a dit vraiment ce n'est pas une époque pour la guerre. Donc ça, il a dit en présence de Poutine à Samarcande, en Ouzbékistan, il y a quelques jours, quand il y a eu le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est une espèce de club un peu répressif des pays de l'Asie.
C'est une vraie question parce que là, est-ce une escalade? Est-ce du bluff en tous les cas? Est-ce qu'une mascarade ou est-ce que ça peut aller plus loin? Raphaël Saint-Ville, la question qu'on se pose, est-ce qu'on a véritablement aujourd'hui une approche réaliste de ce conflit? On condamne à raison, on s'indigne à raison, mais est-ce qu'on n'a pas une approche trop morale et pas assez réaliste et lucide sur les conséquences pour nous tous?
Oui, vous avez raison de poser cette question, mais je pense que derrière cette question de la paix et de cette impossible paix aujourd'hui, c'est parce que précisément un certain nombre de pays ont intérêt à cette guerre et à ce conflit. Et le grand absent de cette discussion aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que, et je crois que je reprendrai les mot à mot les propos du général Vincent Desportes qui disait que les États-Unis, plus aucun soldat Ryan n'ira mourir en Europe. Mais aujourd'hui, ils alimentent cette guerre, ils font pour partie d'immenses bénéfices sur cette guerre. Et on voit bien qu'il y a... cette posture radicale qu'adopte Poutine, finalement, vient renforcer les États-Unis dans les bénéfices qu'elle tire de cette guerre et de ce conflit européen.
Je voudrais qu'on écoute de nouveau Vladimir Poutine, mais cette fois-ci sur le fait que le pays, évidemment, il rappelle ce qu'on sait tous, mais c'est glaçant quand il le rappelle, ce dont la Russie dispose en termes d'armes nucléaires, d'armes de destruction, et là, c'est plus que massif. Écoutons cette mise en garde.
Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
Je pense que dans quelques années, quand on reviendra sur ces moments-là, on verra où nous en sommes, mais on se dira mais comme c'est glaçant de voir un...
Alors moi, excusez-moi, peut-être que je suis complètement, Harold me le dira après, que je suis complètement inconsciente. J'ai beaucoup de mal à penser que Poutine soit fou. Or, si vous voulez, l'arme nucléaire, ça fonctionne tout de même sur la dissuasion, c'est-à-dire que quiconque commence à les utiliser prend le risque d'en subir en retour, avec évidemment cette nuance près que Poutine a ce qu'on appelle des armes tactiques, c'est-à-dire des armes du champ de bataille qui ne sont pas des armes de destruction totale. Mais cependant, depuis le début, c'est pas la première fois qu'il emploie ce mot, je vous l'avoue, j'ai beaucoup de mal à croire qu'on puisse passer à ce cran. Parce que tout simplement, il n'aurait plus le contrôle.
Mais même en termes de rhétorique, comment peut-on s'habituer à une telle menace et à de telles conséquences?
Écoutez, je crois parce que l'arme nucléaire est faite pour ne pas s'en servir,
oui,
je vous le rappelle.
De notre point de vue.
Et pour continuer sur cette lignée, l'arme nucléaire est une arme dialectique. C'est-à-dire, on n'est pas vraiment fait pour balancer sur l'autre puisqu'on va disparaître soi-même. Mais comment on en parle? Chaque mot est pesé. Et dans cette séquence de guerre en Ukraine, c'est Vladimir Poutine qui en a parlé le premier. Donc ça a commencé le jeu de cette manière. Donc on a répliqué toujours un demi-ton en dessous.
Mais moi, j'aimerais bien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout du bout? Vous avez aujourd'hui Emmanuel Macron qui enjoint certains pays, et on imagine c'est l'Inde et la Chine, à prendre part contre la Russie. Vous avez les Européens qui disent il faut condamner, il faut... Ursula von der Leyen qui veut juger Poutine. Mais... Qu'est-ce qu'il y a au bout? Est-ce qu'on peut dire aux populations aujourd'hui françaises et européennes ce qu'on risque précisément avec de telles rhétoriques
de part et d'autre? Vous auriez dû inviter Madame Irma.
Le problème, c'est que vous...
Oui, mais gouverner, c'est...
Oui, oui. Wow. Mais le problème, c'est que vous questionniez tout à l'heure sur les chercheurs de paix, mais ce qui commence à disparaître, c'est les chemins de paix. C'est-à-dire aujourd'hui, quel serait le scénario qui permet ne serait-ce que d'inscrire une désescalade. C'était des questions qui étaient encore abordées politiquement et dans les échanges il y a encore quelques, disons, il y a 2 mois. Mais peu à peu, ça a été totalement évacué. Dans l'opération d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies, sur cette injonction forte sur le thème des pays non alignés, c'est-à-dire on a du mal à voir aujourd'hui quel pays pourrait répondre précisément à cette demande-là. Et on se dit aussi que ça ne ferait que renforcer l'isolement de la Russie et d'une certaine manière, tout le temps, la construction d'un rapport de force et jamais d'une désescalade.
Mais la question, c'est d'isoler...
Quelles sont les grandes voies de la paix aujourd'hui?
Vous savez, quand vous avez eu 3 personnalités, dont 2 anciens... un qui est ancien ministre des Affaires étrangères, un ancien Premier ministre et un ancien conseiller d'un président. Il y avait eu Hubert Védrine, Dominique de Villepin et Henri Guénaud qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « Attention, la surenchère guerrière, vers où on va ?» Tout le monde leur est tombé dessus en leur disant « Mais attention, vous êtes en train de trouver des circonstances atténuantes à Poutine parce qu'il ne faudrait pas l'humilier. » Mais la question se pose, Raphaël Steinville. L'humilier, le dénoncer, le pointer du doigt, lui dire qu'on va le juger, où ça nous amène, nous aussi?
Il y a 2 choses. D'une part, moi, je pense qu'on se plaît à croire qu'aujourd'hui, la Russie est totalement isolée, ce qui est faux. D'abord, il y a la Chine, il y a l'Inde, d'autres grandes puissances qui finalement continuent à dialoguer et commercer avec la Russie. Signe que les sanctions, finalement, sont d'une certaine manière efficaces et en tout cas sont très largement contournées. Et la deuxième chose, les appels que faisait justement Hubert Védrine et d'autres grands dignitaires finalement de notre diplomatie française à respecter, à ne pas humilier la Russie, aujourd'hui ne sont pas du tout entendus. Et d'une certaine manière, on ne comprend pas que à vouloir finalement la défaite absolue de la Russie et de Poutine se fera au prix finalement de la défaite aussi et du déclin absolu de l'Europe. On n'a pas intérêt à ce que la Russie aujourd'hui soit pas seulement mis au banc des nations, mais réduit à néant.
Mais alors, vous pouvez dissocier la Russie. Ce que vous dites, c'est qu'il y a un certain nombre de pays européens, et notamment à l'est de l'Europe, qui, dans le fond, préfèrent la protection américaine. Vous savez, il y avait ce dicton, les Américains, c'est super comme maître, ils sont riches et ils sont loin. Les Russes ne sont pas très riches, en parlant de tous les cas, moi, et ils sont prêts. Et donc, si vous voulez, ça, on ne peut pas le...
Je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans l'Europe, elle est déjà américanisée. Nous sommes déjà avec l'alliance Harold, je parle sous votre contrôle.
Non, l'alliance dans l'alliance Atlantique.
A pris une place. C'est d'ailleurs, l'a revivifié d'une manière incroyable.
Oui, ça l'a revivifié, mais c'est un peu Vladimir Poutine qui l'a pas mal revivifié. Parce qu'il voit une menace. Alors que l'Ukraine peut-être s'en rapprocher, c'est pas impossible. Enfin, il y avait deux avis en Ukraine, mais ils semblaient être en train d'aller vaguement vers l'OTAN, qui n'en voulait pas, entre parenthèses. Quand ils se réunissaient, ils disaient non, c'est un paquet de problèmes, ce n'est pas le moment de rentrer dans l'OTAN, on vous entraîne, on vous donnera un mini-OTAN pour vous, mais on ne viendra pas à votre secours physiquement.
Alors, est-ce que les Américains n'ont pas laissé planer quand même, ou certains Américains n'ont pas laissé planer auprès des Ukrainiens cette promesse implicite, ils ont semblé la fermer clairement, Harold?
Ah oui, tout à fait, au Congrès, dans les think tanks, bien sûr.
La question, tout à l'heure, quand je vous ai demandé où sont les chercheurs de paix, vous m'avez dit, en temps d'escalade ou de guerre, ce n'est pas le moment. Mais est-ce que précisément, c'est le moment? D'ailleurs, c'est
ça s'est toujours passé toute la notre doctrine même du général de Gaulle, c'est à ce moment-là. Il y avait des personnes qui travaillaient à la sortie de crise.
Non, mais il ne s'agit pas d'humilier Vladimir Poutine, il s'agit de l'empêcher d'agir. Et quand j'entends certains qui nous racontent que les sanctions n'ont qu'une efficacité, c'est faux. Les sanctions ont une efficacité. 75% des missiles de croisière ont été détruits.
Mais ce n'est pas à l'effondrement de la Russie, comme il a été dicté.
Pas les sanctions, c'est l'aide militaire que l'on apporte.
Mais justement, on est en train d'affaiblir la Russie, parce que la vérité, c'est qu'ils n'ont pas les composantes nécessaires pour reproduire leur stock d'armes. Et aujourd'hui, la Russie est en bien mauvaise posture et on ne s'attendait pas à une contre-offensive ukrainienne aussi efficace.
Aidée par les Américains. Il ne faut rien enlever au courage, véritablement, à l'aspect. Ils sont vaillants, les Ukrainiens, mais il y a quand même un guidage américain qui est réel sur le terrain, en termes de renseignements, en termes d'armes et tout.
Mais d'ailleurs, c'est pas ça. Oui, tout à fait. Ils ont dit, on fera tout, sauf être physiquement présent. Et je cite Biden au début de la guerre. Il a retiré jusqu'au dernier soldat américain, parce qu'il y en avait qui faisaient de l'entraînement, de la formation. Et il a dit, nous n'aurons pas de soldats en Ukraine. Nous ne nous battrons pas physiquement nous-mêmes pour l'Ukraine, mais on fera tout le reste. Parce que si on reste en Ukraine, là, on se battra directement avec la Russie et la guerre va s'étendre. Et là, on va vers une guerre mondiale et on n'en veut pas. Je pense qu'il n'a pas varié. J'ai l'impression d'être son VRP, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas varié.
Harold, parce qu'on sait bien, si vous voulez, je sais bien qu'on se bat pour les valeurs et tout ça, si vous voulez, mais aucune politique étrangère n'est purement guidée, seulement guidée par les valeurs et les bons sentiments. Et moi, j'aimerais savoir, de votre point de vue, dans quelle mesure cette guerre favorise un certain nombre d'intérêts américains.
Bah, toujours le lobby des armes,
oui, bon, le lobby des armes
s'y retrouve.
Mais
À part les industries qui sont générées par la guerre et toutes les tricheries et les détournements.
Il y a quand même une évidence. D'abord, c'est l'affaiblissement de la Russie, c'est le basculement avec la Chine.
Ils vendent déjà 100% de ce qu'ils ont.
Le renforcement de l'OTAN.
C'était un peu là-dessus.
Est-ce qu'en miroir inversé, on n'est pas en train aussi d'installer le même choc des civilisations que Poutine? Parce qu'on dit que c'est l'Occident ou le reste du monde contre la Russie, et Poutine nous dit que c'est l'Occident contre la Russie également. Est-ce qu'on n'est pas, Raphaël Samuel, en train de marcher, je ne sais pas, vers une confrontation, c'est pas les militaires ou autre chose civilisationnelle, entre vraiment l'Occident.
Quand on vire des artistes russes, effectivement, ce qui est à mon avis, ce sont des mesures parfaitement idiotes, ou quand on s'en prend à des civils russes qui n'ont strictement rien à voir avec Poutine, ou aux chars russes, ou aux sportifs russes, ou aux restaurants russes, ou à tout ce que vous voulez, non seulement c'est crétin, mais c'est complètement nier, si vous voulez, que la culture russe est une grande culture, et que nous avons aussi, elle fait partie de la nôtre, donc c'est complètement aller dans ce sens que vous décrivez, si vous voulez.
Il y a ce risque-là.
Oui, à ces risques-là, mais après, il faudrait pouvoir définir ce que sont les valeurs de l'Occident aujourd'hui. Je pense que l'idée qu'on s'en fait n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle produit aujourd'hui comme en matière civilisationnelle. C'est un peu ça le drame pour nous. Il y a autre chose, c'est-à-dire que nous, on est très conscients, enfin, on prend pour mot à mot les menaces de Poutine, mais et on essaye d'en faire, et à raison pour partie, le grand vilain de cette histoire. Mais est-ce que l'on
il
comprend
ne l'est pas.
Non, mais je vous dis, il est en grande partie. Mais en fait, nous, on ne comprend pas à quel point finalement nous sommes ballottés entre les Américains, les Russes, sans comprendre finalement que notre intérêt peut-être aujourd'hui n'est pas d'alimenter. Quand Vladimir Poutine de plus en plus explique que c'est moins une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais entre l'OTAN et la Russie, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Et là, la question, vous répondez vous-même.
Oui, mais il ne faut pas être naïf. En fait, aujourd'hui, nous sommes embarqués pour partie avec des personnes qui ont intérêt dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Alors, il y a une réalité de ce conflit que Vladimir Poutine a provoqué, a été l'envahisseur. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cette guerre?
N'oublions pas que les Russes peuvent avoir un rapport au temps un peu différent du nôtre. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans un temps long. Ils misent, par exemple, sur le basculement peu à peu des opinions publiques. Aujourd'hui, il a vu que l'Allemagne était le maillon faible de l'Union européenne sur la question énergétique. Je ne développe pas pourquoi, on le sait. Mais par exemple, comment l'opinion publique française va évoluer quand elle verra les effets d'un bouclier tarifaire qui va se réduire, un prix du gaz et de l'énergie qui va augmenter, des foyers qui vont se retrouver...
Et là, vous nous faites le scénario catastrophe. Non,
je dis simplement que lui, il est très informé des décisions. Et il voit très bien que, par exemple, peut-être qu'à la mi-2023, l'opinion française dira, mais enfin, le prix à payer est trop lourd. Oui, il joue aussi sur ça.
Bien sûr, par ailleurs, il faudrait quand même en profiter peut-être à ce moment-là pour se dire, on s'est habitué finalement, un peu moins la France que les autres, mais tout de même, à trouver absolument normal qu'un autre pays assure notre défense. Je veux dire, les pays de l'Union européenne, l'Allemagne, on s'est
félicité. Elisabeth, ça fait longtemps que l'Europe n'a plus le monopole de la puissance. Donc
non, mais sans avoir le monopole. Excusez-moi, entre le monopole de la puissance et la souveraineté, je ne dis pas qu'on doit avoir le monopole, je dis que si on veut notre souveraineté, et je ne crois pas à la souveraineté européenne, donc si les pays européens veulent être souverains, le minimum serait qu'ils assurent au moins une partie de leur défense. Que fait l'Allemagne? Tout le monde dit « Ah, c'est génial, ils vont investir, ils vont dépenser ». Ça y est, ils sortent l'argent pour l'armée. Et où ils le dépensent? En achetant du matériel américain, donc.
Vous vous souvenez d'une des Harold Iman, il y a quelques mois, je crois, c'est Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, qui avait fait cette déclaration quand on lui avait demandé quels étaient les objectifs de la guerre en Russie. Il y avait la dénazification, etc. Mais il avait dit non. Autre chose, il avait dit notre but est d'empêcher qu'il y ait un monde unipolaire tourné vers Washington.
Oui, oui.
Et là, je pense qu'ils ont beaucoup en tête cela pour qu'il n'y ait pas une sorte de...
Oui, c'est-à-dire
d'effacement aussi de la Russie et un basculement définitif.
Il y a un jeu qui se joue pour l'influence sur l'Europe médiane, en gros. Et Vladimir Poutine avait, avec le gaz et avec un contact très poussé avec certains partis, certains pays, comme la Hongrie notamment, était allé assez loin. Donc lui aussi faisait sa petite OPA et la contre-OPA a été plus puissante, si on peut dire. Et ça se joue malheureusement en Ukraine. Mais je voudrais juste ajouter un tout petit élément sur l'Ukraine. C'est que même si on ne fait rien, on va recevoir 10 millions de réfugiés de guerre. Donc quand on reçoit 10 millions de réfugiés de guerre, ou 7 millions, et que la Pologne en a 3, 4 millions qui rentrent, qui sortent, etc. J'étais en Pologne, ça circule très facilement, les Ukrainiens, on les voit absolument partout. On est concerné par la guerre. Ça devient notre guerre parce qu'après, ils iront en Allemagne et puis bonjour la France.
C'est le plus important. On va continuer à en parler. Notre guerre, mais ce n'est pas la guerre d'une quarantaine d'autres pays. J'ai essayé de calculer là pendant que vous développiez votre argumentaire parce qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a 40 pays qui n'ont pas du tout voté, qui ne s'expriment pas sur ce sujet. 40. Pas rien.
C'est qu'Emmanuel Macron a morigéné.
À tout de suite pour en parler. La suite de votre édition est à la une de l'actualité, le coup de force de Poutine avec une mise en garde sur le nucléaire et aussi des référendums d'annexion qui sont considérés d'ailleurs par l'Union européenne comme des simulacres. On va en parler avec nos invités, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité avec vous, Audrey Berthaud.
La Russie reconnaît presque 6000 soldats tués en Ukraine depuis le début de son offensive, annonce du ministre de la Défense ce matin dans un entretien télévisé. Un bilan largement en deçà des estimations ukrainiennes et occidentales. Dans les Yvelines, un fleuriste de 26 ans a été agressé jeudi dernier à coups de couteau par deux hommes. Il se trouvait avec trois amis sur le parking du McDrive de Vélizy. Les suspects sont deux livreurs âgés de 18 et 19 ans. L'auteur des coups de couteau a été condamné à 2 ans de prison ferme avec mandat de dépôt et 1 an de sursis. Son complice, 18 mois de prison ferme, dont 6 mois sous bracelet électronique et 12 mois de sursis. Enfin, la Haute Autorité de Santé a approuvé 3 nouveaux vaccins adaptés au variant Omicron. Ils seront mis en circulation à l'automne. Les doses seront destinées en priorité aux personnes à risque, leur entourage et aux soignants.
Je sais pas.
Vladimir Poutine a donc justifié une mobilisation partielle en Russie face à, dit-il, une menace de l'Occident. Il a par ailleurs rappelé que la Russie était dotée de l'arme nucléaire et qu'elle ne manquerait pas de l'utiliser si nécessaire. Et le tout avant, ce qui s'est passé, c'était la veille, hier, une annonce sur des référendums d'annexion à la Russie, alors considérés comme étant des simulacres par l'Union européenne. Malgré tout, revenons sur ces référendums, le principe, le coup de force de Poutine, le tout est résumé par Augustin Donadieu.
La question sera simple, pour ou contre rejoindre la Russie ? Ces référendums annoncés dans la précipitation par les gouverneurs pro-russes face à la contre-offensive de l'Ukraine au nord du pays concernent ces quatre régions séparatistes à l'ouest. Les territoires du Donbass avec Donetsk et Louhansk, et plus au sud, les oblasts stratégiques de Zaporijja et Kherson.
Nous attendons tous ce référendum sur l'adhésion à la Russie depuis 8 longues années. Cela est notre rêve commun pour notre avenir. C'est en train d'arriver. Le référendum aura lieu.
Les habitants sont appelés à voter à partir de vendredi sur 4 jours. Mais l'issue de ce scrutin ne fait a priori pas de doute. Le oui devrait l'emporter. La tension aux portes de l'Europe pourrait alors monter d'un cran. La Russie n'attaquerait plus son pays voisin, mais défendrait son territoire. Un scénario minimisé par Kiev.
Je remercie tous les amis et les partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation ferme et massive de la volonté de la Russie d'organiser des pseudo-référendums.
Une nouvelle escalade confirmée par le chef de l'administration présidentielle ukrainienne affirmant que la menace russe ne pouvait être liquidée que par la force.
Des référendums d'annexion dans ces quatre régions, Harold Iman. Ben oui, comment tout cela va se mettre en place ?
Oui, c'est des référendums de rattachement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un référendum, normalement, on fait ça avec des listes électorales, on a des observateurs internationaux en tout genre, et on fait ça quand il n'y a pas la guerre. Et là, il n'y a absolument rien de tout cela. Il y a plus de la moitié de la population qui a quitté ces zones, surtout Lugansk et Donetsk. Vous avez plus de gens de Lugansk et de Donetsk à Kiev et même en Russie que sur le territoire lui-même. Alors, qui vote ? Est-ce qu'on peut voter si on n'est plus présent ? Et c'est les pro-ukrainiens qui ont pris la fuite en grande partie. Et voilà, peut-être dans la ville de Donetsk, c'est sûr que ça aurait tourné pour la Russie, mais dans le reste, et certainement pas dans la zone district de Kherson. Donc, ces quatre zones ne se ressemblent pas. On ne peut pas les mettre dans un grand sac. Et je rajoute que la Crimée, qui en 2014 a voté son rattachement à la Fédération de Russie, c'est un autre cas. Il n'y avait pas la guerre en Crimée du tout. On n'a pas tiré de coups de feu. Ce n'est pas la même chose que là, on va voter à Donetsk avec des échanges d'obus. Ça n'a presque pas de sens. Et bien sûr, l'avancée des troupes ukrainiennes se fait du côté de Lugansk de manière assez massive. Et donc, une partie du territoire pour basculer en Ukraine, c'est maintenant qu'ils veulent un référendum. C'est très, très... je dirais opportuniste.
Oui, mais en même temps,
Elisabeth, simplement, je vais rappeler ça parce qu'on va revenir vraiment là-dessus. On a beaucoup de réactions sur les propos de Vladimir Poutine sur l'utilisation de l'arme nucléaire. On imagine évidemment, pour ceux qui nous regardent et qui ont écouté les propos de Vladimir Poutine, la question de savoir si est-ce que c'est crédible, tout simplement, le retour rien que de cette rhétorique. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est pas tant de savoir s'il peut, s'il va, si ça reste une arme de dissuasion, mais c'est l'effet sur les populations européennes d'entendre aujourd'hui qu'un leader comme Poutine, qui malgré tout reste relativement imprévisible et irrationnel, utilise une telle rhétorique dans nos esprits à nous.
Vous m'avez posé la question tout à l'heure, j'y croyais pas, et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais je dois vous dire, je n'ai toujours pas changé d'avis, je n'y crois toujours pas.
Mais
je pense
que la question n'est pas d'y croire ou pas. Je pense qu'il y a Poutine et il y a l'histoire de la Russie, c'est-à-dire qu'on a vu dans l'histoire que la Russie était à même de sacrifier même ses populations pour sauvegarder quelque chose de plus grand. C'était la politique de la terre brûlée. Donc il y a quand même dans le peuple russe l'idée quand même que malgré tout ils sont capables de sacrifices énormes, parfois qui nous paraissent absurdes, irrationnels, tout ce que l'on veut, mais en tout cas ils sont capables pour leur propre défense d'utiliser des moyens qui nous sembleraient totalement fous.
Mais d'abord, ce n'est pas la première fois que dans les éléments...
Ce n'est pas une raison qu'il ne faut pas s'en inquiéter de nouveau.
Je dis simplement qu'il utilise. Il utilise dans un moment où il dit « si les intérêts vitaux, essentiels,
oui. de la Russie sont menacés, alors...
Oui, ils modèrent un peu.
Ils modèrent, et c'est dans ce moment-là, et le seul élément nouveau aujourd'hui, suite à ces pseudo-référendums, comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais il y a des attaques ukrainiennes sur des territoires qui seront pour lui des territoires russes, de la Fédération de Russie, il peut arguer du fait qu'il y a donc une atteinte à la souveraineté territoriale russe.
Mais est-ce que ce serait son intérêt? C'est ça la question.
Non, mais c'est pour ça que la question...
Je veux simplement dire ce qu'il essaie d'installer.
Oui, j'entends bien ce que vous dites, mais la question qu'on peut se poser, nous, et j'entends bien ce que vous dites, qu'il n'a peut-être pas la même conception de ses intérêts, et vous avez parlé effectivement des sacrifices qu'ils étaient capables de consentir, il me semble quand même là, malgré tout, que ça irait au-delà de ses intérêts.
Mais Elisabeth, en fait, la question, c'est moins de savoir si ces référendums sont dans le cadre du droit international justifiés, possibles, les arguties. Non, mais ils ne le sont pas, mais peu importe. Oui, et vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que Poutine, aujourd'hui, est passé d'une guerre offensive à une guerre défensive, et ce faisant, dès lors qu'il englobe ces territoires comme faisant partie de la Russie, ça change aussi les perspectives et la manière d'abord de mobiliser son peuple pour se défendre, ce qui sera perçu pour lui comme une agression si on en vient à continuer à se battre dans ces territoires qu'il aura annexés. Et donc c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un changement de perspective et de pour lui et de mobiliser son peuple.
Vous avez certainement raison, guerre défensive parce que contre-offensive américano-ukrainienne, mais il y a aussi un aspect, et puis une guerre psychologique et de communication. Oui. Quand vous brandissez aujourd'hui, même si on n'y croit pas, on espère ne pas y croire, l'arme nucléaire, ça ne peut pas ne pas infuser dans les opinions européennes qui aujourd'hui, même si elles soutiennent, je suppose, en grande partie les Ukrainiens et quand même sont assez fiers pour une grande partie.
J'ai l'impression que ce soutien est quand même moins massif qu'il y a quelques mois.
C'est pour ça que je vous dis psychologiquement, est-ce qu'en brandissant cette arme, il se dit, regardez, vous faites des sacrifices, mais regardez ce qu'il peut y avoir au bout si vous continuez.
Voilà. Vous avez raison.
Et donc sur ça, est-ce qu'il ne mise pas sur la désunion des Européens, sur une forme de tension sociale qu'il montre dans les différents pays? Absolument. Et pas seulement européens, il faut voir de l'autre côté de la Méditerranée où il y a des pays qui subissent de plein fouet le défi, la crise énergétique. Il peut y avoir des soulèvements également. Comme on a
et la sécurité alimentaire.
Et dans ce cas-là, l'arme devient...
C'est ce qu'a dit d'ailleurs le secrétaire général des Nations Unies en nous annonçant après tant d'autres un hiver terrible.
D'où la question, comment vont réagir les États-Unis? Je pense, Harold, je parle sous votre contrôle, que c'est peut-être la plus importante des déclarations que l'on attend de Joe Biden. Est-ce qu'il va mettre encore une pièce dans l'engrenage et l'escalade, ou est-ce qu'il va dire... Voilà.
Moi, j'ai envie de dire non, parce que l'ayant observé depuis le début, il reste sur la même rhétorique. Alors, il va dire... Poutine est un tueur, Poutine, que l'histoire le balaye. Bon, ça, c'est un peu en l'air. C'est peut-être pas très utile. D'ailleurs, Henry Kissinger a dit qu'il aurait mieux fait de ne pas dire ces choses-là. Mais pour le reste, la structure de ce que dit Biden, c'est non, je n'irai pas à la guerre totale. Je me retiens. Donc, ne me menacez pas avec l'arme nucléaire. Juste, ne me menacez pas.
Parce qu'on est bien d'accord que
mais
c'est
ne dis pas,
lui,
moi, je les utiliserai.
Ce sont les États-Unis qui peuvent faire en sorte que ça s'internationalise complètement.
Bah oui, les c'est États-Unis
ont, aussi
ont le parapluie,
bien sûr.
Le parapluie nucléaire sur l'Europe tout entière. Et quand on est dans l'OTAN, on est sous le parapluie américain, très vaguement le parapluie français et britannique. Mais c'est surtout ce parapluie-là. Donc avoir sorti cette énorme arme pour annexer ce qui correspond à Portugal et demi... Et disproportionné.
Vous avez cité Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain. Il a fait partie de ceux qui, aux États-Unis, avaient dit qu'il ne faut pas humilier de mémoire un Poutine. Là encore, comme Hubert Védrine ici, Dominique de Villepin et Henri Guénaud, il y a eu des cris d'orfraie partout. Pourtant, il maintient encore en disant qu'il n'est pas possible d'humilier, même si c'est notre ennemi, on ne peut pas.
Il faudrait donner la main aux anciens grands diplomates.
Ils ont été beaucoup critiqués.
Ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes qui disent ça passent leur temps, si vous voulez, aussi devant la Chine. Que je sache, si vous voulez, nous ne sommes pas très vaillants très souvent. Hein. Donc, oui, il ne faut pas, bien sûr qu'il faut. Je veux dire, je pense, moi, que c'est absurde. Si vous voulez, on ne va pas faire disparaître ni la Russie, ni la Chine. Donc, la question, c'est de ne pas avoir l'air non plus d'être en état de totale faiblesse par rapport à eux.
Mais si je peux rajouter un mot sur Kissinger, parce qu'il a fait au moins 10 interventions cette année. Le Financial Times, la télé, Der Spiegel. Bon. Et il dit quand même, il faut que l'Ukraine reprenne les territoires perdus. Mais il ne faut pas humilier.
Voilà, c'est ce mais qui pose problème à beaucoup de consciences.
Non, mais alors, est-ce que c'est pas en soi.
Mais quid de la Crimée, alors? Puisque Zelensky, la semaine dernière, l'a pointé comme un nouvel objectif.
Oui, alors, Zelensky a fait ça, mais bon, mettons-nous dans une optique de marchandage de la paix. Il en demande trop, parce que la Crimée, même par référendum, je pense que ça ne repassera jamais.
Zelensky en demande trop?
Juste pour pouvoir reculer un peu dans la négociation. Que les Russes obtiennent une concession que déjà les Ukrainiens avaient faite.
Mais c'est une question sur le leader Zelensky aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'où sommes-nous prêts à le suivre dans ces revendications qui fut-elle extrêmement légitime.
Attendez, légitime. Il faut quand même juste rappeler peut-être aussi que dans les mois qui ont précédé la guerre, il y a eu aussi de la part de l'Ukraine un refus de se conformer aussi aux accords qu'ils avaient signés, l'accord
de Minsk 2 notamment.
Voilà. Oui. Donc si vous voulez, on peut pas nommer. Bien sûr que Poutine est le grand responsable, c'est lui qui envahit l'Ukraine, mais on peut pas complètement oublier tout ce qui a précédé.
Si vous voulez, et sinon, quand Emmanuel Macron dit retour à l'âge des impérialismes, là c'est de la lucidité, c'est le cas. L'impérialisme russe comme l'impérialisme américain.
Mais surtout, quand est-ce qu'il s'est arrêté cet âge ?
Plus discrète, mais qui existe et de manière bien réelle, vous avez raison.
Et quand est-ce qu'il s'est arrêté cet âge ? Excusez-moi, quand est-ce que l'âge de la puissance, en quelque sorte, dans les relations internationales, s'est arrêté ? Quand est-ce qu'elles ont été régies par l'amour et la morale ?
Est-ce qu'il faudrait normalement, Olivier
d'Artigol, certains ont décrété la fin de l'histoire.
Qu'il y ait là des réunions, je ne sais pas, sous l'égide de alors je ne sais pas de qui.
Ah, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les grandes voix de la.
Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? Est-ce qu'il va y avoir une voix européenne ? Est-ce qu'il va y avoir une initiative ? Est-ce qu'il va y avoir une feuille de route de paix de Harold
Iman ? Mon sentiment, c'est juste mon sentiment, c'est que les armes vont décider. On ne va pas dégainer l'arme nucléaire parce que ça sera la fin de tout le monde, même s'il y a une espèce de fascination. Un peu catastrophiste, cataclysmique à Moscou. Hein. Il y a dans les élites cette idée que la fin du monde n'est pas si lointaine. Il y a beaucoup de gens qui sont païens et superstitieux et toutes sortes de cultes bizarroïdes, Blavatsky. Enfin, voilà. Il y a cette ambiance bizarre là-bas.
Ça, c'est pas rassurant.
Ici. Qu'on n'a pas ici. Mais je pense que les armes vont parler. Donc, quelque part, quand on est un match nul absolu, quelque part dans le Donbass, c'est-à-dire à peu près ce qu'on avait avant la guerre, et sans vraiment toucher à la Crimée. Là, les gens pourront parler, mais...
Écoutons Poutine sur, selon lui, la volonté de destruction de la Russie.
Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à diviser l'Union soviétique. Ils pensent qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie.
Entendu, c'est très intéressant, ces références, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, alors, c'est sa lecture de l'histoire pour justifier aujourd'hui, selon lui...
Non mais Raphaël... c'est bien évidemment l'agresseur, mais on peut lui reconnaître, alors je m'expose, une cohérence dans son récit.
Oui, dans son récit.
Dans son récit. Moi, j'ai eu horreur dès le début du conflit qu'on dise, mais il a des problèmes psychologiques, etc., la psychologisation de ce moment-là. Vladimir Poutine est un dirigeant qui a un récit et qui essaie de l'installer et de le créditer.
Et moi, ma question, quel est notre contre-récit face à cela ? Parce que si lui dit que l'Occident se délite, que l'Occident, etc., et nous, qu'est-ce qu'on propose, mis à part le fourre-tout des valeurs démocratiques, dont on ne sait même plus ce qu'il y a dans les valeurs ?
Vous dites fourre-tout, c'est quand même... Alors qu'on voit la manière dont ces référendums vont être organisés, ça reste quand même une valeur essentielle.
Vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Le mot valeur, il est tellement aujourd'hui utilisé, tarte à la crème, on ne sait plus ce qu'il y a.
Mais le contre-récit est en effet en panne aujourd'hui.
Et puis qui le porte ?
Notamment sur... on l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé des bâtisseurs de paix, moi j'ai dit il n'y a plus de chemin. Dans tous les conflits de haute intensité, des dirigeants ou leurs représentants travailler à des désescalades, etc., aujourd'hui, je ne vois pas dans les radars ce chemin-là.
S'il y avait un De Gaulle, s'il y avait un...
J'ai bien compris votre question, mais je n'ai pas la réponse. Donc, j'ai essayé de contourner. J'ai bien compris la question, mais il n'y a pas de réponse.
Vous avez 4
heures. Il n'y a pas de réponse.
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, à part Erdogan.
C'était la fin. C'était la conclusion. La oui, tout à fait. Mais vous pouvez y réfléchir. Hein, pour la...
Très bien.
On a une semaine.
On a une semaine. Prochain.
Je crois que vous allez devoir la rendre plus rapidement parce que les événements s'accélèrent et c'est pour ça, évidemment, qu'on va continuer à en parler sur l'antenne de CNews.
Alors, 16 heures, Biden.
Merci, évidemment. Merci en tous les cas pour vos analyses respectives. Merci beaucoup. Restez avec nous, je l'espère, si vous le souhaitez. Et à demain avec grand plaisir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.